Vue du banc, le podcast pour comprendre le jeu, vous est présenté par PMU.fr.
Salut à tous, bienvenue pour le 12e épisode de la saison 6 de Vue du banc, un épisode de réaction à 3 matchs du week-end, le choc entre Marseille et Lyon, celui entre Liverpool et Manchester City, et enfin le classicard entre le Bayern et Dortmund. Pour cet épisode de réaction à des matchs dans 3 championnats différents, mais 2 compères habituels, Florent Tonuti de Chronique Tactique, salut Florent.
Salut.
Et Raphaël Cosmidis de l'équipe et du Red Star notamment, salut Raphaël.
Salut Christophe.
Alors messieurs, on va commencer par le match que je n'ai pas vu, puisque je travaille toujours le dimanche soir, du coup c'est un petit peu compliqué de voir ça, j'ai juste aperçu quelques bouts, Marseille-Lyon, ça avait l'air un peu chaud, l'un des moments où je me suis mis devant la télé, il y a un penalty qui a mis 10 minutes à être tiré, du coup c'était pas très engageant. Florent, qu'est-ce que tu peux dire sur ce match, pour quelqu'un comme moi qui a surtout vu des arrêts de jeu, des fumigènes, etc., si on parle vraiment du contenu footballistique?
Au final, on va vite en faire le tour du contenu footballistique, il y a pas eu grand chose de proposé. Comme tu l'as vu, c'était un match assez heurté. Il y a eu beaucoup d'arrêts de jeu au-delà du pénalty qui a duré, je crois, quasiment 6 minutes pour être tiré. Mais c'était un match assez heurté quand même. C'était assez difficile d'un côté comme de l'autre pour de faire du jeu. La déception qu'on peut avoir, on y reviendra après, c'est quand Lyon a eu l'avantage numérique, la supériorité numérique. Ils ont vraiment rien réussi à construire et c'est même plus Marseille qui s'en est le mieux tiré dans cette dernière demi-heure en gérant très bien. Et je retiens plus de choses en fait de la dernière demi-heure du match sur l'intelligence et la préparation des deux équipes que sur l'heure précédente où, à part des perfs individuelles, notamment celle de Payet, collectivement il est difficile de tirer quelque chose de vraiment positif d'un côté comme de l'autre.
Déjà Raphaël, tout simplement, donc à l'heure de jeu il y avait 2-1, but de Payet à la 18e et à la 39e et réduction de l'écart de Dembélé à la 59e. Déjà si on prend vraiment cette première heure, sachant que l'expulsion arrive juste après à la 64e, est-ce que le score de 2-1 pour Marseille, qui du coup n'a pas bougé, reflétait globalement le rapport de force entre les deux équipes?
Ouais, à peu près, parce que la période où le match est chaud justement, et Florent en a parlé, c'est un peu après le penalty. Je dirais entre le penalty finalement et la fin de la première période. Et cette période-là, Marseille a dominé sur de l'intensité plus qu'autre chose, sur des duels gagnés, sur des tacles un peu rageurs comme celui qui mène au deuxième but de Payet. Donc là-dessus, c'est pas scandaleux qu'il y ait 2-1 à la 60e. Il aurait très bien pu avoir 2-2 ou même 1 partout sur les occasions créées. Parce que c'est un match qui finit, Flo me corrigera si je me trompe, mais à, je crois même pas à 1,5 expected goals des deux côtés.
Je crois que c'est 1,16 à 1,10 ou quelque chose comme ça.
Voilà, donc il n'y a pas eu d'énormes occasions, il y a eu quelques frappes de loin, il y a eu la qualité de Payet, il y a eu des situations où il y aurait pu avoir des buts. Après, il y a deux thèmes qui pour moi ressortent du match. D'abord, c'est la composition et le système choisi par Rudy Garcia qui, en l'absence de Touzard, a fait reculer Aouar et est revenu un système avec des vrais ailiers. Est-ce que ça a payé ou pas? Bon, Traoré fait une passe D quand on a réussi des dribbles, mais en dehors de ça, c'est quand même un football très différent et pas forcément très intelligent qui a été joué par les Lyonnais.
Très peu de maîtrise aussi.
Et la deuxième chose pour moi, c'est les difficultés qui continuent pour Lyon dans les sorties de balles. Que ce soit Genesio avant, que ça a été Silvinho pendant quelques mois et là maintenant Garcia. Peut-être qu'il va falloir se poser la question aussi un moment sur la qualité des joueurs que tu mets derrière et leur qualité au moment de ressortir le ballon, parce que Denayer et Anderson n'ont pas été brillants à nouveau dans ce domaine-là. Alors Denayer était un peu gêné par le fait d'être droitier, axe gauche encore une fois, mais Koné et Dubois aussi au moment de ressortir le ballon. Quand tu as vu plus tôt dans l'après-midi le match entre City et Liverpool, c'est assez dramatique parce que Marseille, qui avait explosé contre Paris en essayant de presser parce qu'ils n'avaient pas pressé de bonne manière et pas bien exécuté le plan. Là, contre Lyon, tu avais l'impression qu'ils étaient super forts d'un coup au pressing. Donc c'est dommage et c'est malheureux quand tu vois la qualité des joueurs plus haut sur le terrain et surtout dans l'axe côté lyonnais.
Florent, est-ce que Marseille a pressé différemment par rapport à notamment ce qui était fait face à Paris, ou alors Marseille a pressé des joueurs bien moins forts? Il y a forcément, les joueurs sont moins forts, mais je dirais, est-ce que Marseille a vraiment haussé le ton, soit sur l'implication, l'intensité, la réduction des espaces alloués aux défenseurs, ou simplement que Lyon a réussi des choses que des joueurs meilleurs sont capables de... Enfin, raté des choses que des joueurs meilleurs sont capables de réussir?
Bon, je pense qu'il doit y avoir un peu des deux pour faire la réponse la plus facile. J'ai pas trouvé Marseille parfait en termes de pressing, parce que plusieurs fois, l'OL a quand même réussi à trouver des passes qui ont cassé la ligne du milieu et qui ont permis de trouver des joueurs intercalés entre les lignes. Le problème, c'est que les joueurs en sortie de décalage, ben, on en revient à ce que disait Raphaël tout à l'heure, c'était Traoré, c'était Cornet. Ou alors c'était un joueur mal orienté. J'ai souvenir en première mi-temps notamment d'une situation où Lyon sort la balle côté droit, trouve un appui sur Dembélé qui remet sur Reine Adélaïde et qui malheureusement pour lui à ce moment-là est mal orienté alors que Traoré fait un appel en profondeur et part vers le but. Donc là c'était un peu pour lui, mais globalement Marseille a pressé et Lyon n'a pas réussi à punir ce pressing au-delà de ce cas particulier en trouvant des solutions dans la profondeur. Du coup ensuite pour Lyon ça se passait quand le ballon était dans le camp marseillais, quand Marseille était regroupé dans ses 40 mètres, et là il fallait s'appuyer sur des différences individuelles. En début de match on a vu Aouar un petit peu casser tenter de casser les lignes en jouant en profondeur, notamment pour Cornet, puis c'est lui qui donne la première balle de but du match quasiment à Cornet, même si l'angle est très fermé vers la 2-3ème minute de jeu. Et après, c'est surtout Reine Adélaïde qui a fait les différences, où là, il décrochait, il prenait la balle et il allait attaquer balle au pied. Et il posait beaucoup de problèmes jusqu'à sa sortie qui reste, pour moi, assez incompréhensible.
Raphaël, on parlait dans ce même podcast, il y a quelques épisodes, de la tendance de Rudy Garcia à inventer des choses, à essayer d'innover sur les gros matchs. Alors là, c'est pas complètement inventé, parce que c'est un peu un retour à ce qui a déjà été fait, et finalement, c'est pas un truc absolument scandaleux de mettre deux purs ailiers dans le foot moderne. C'est presque plus ces derniers systèmes tactiques qui étaient un petit peu à contre-courant de ce qui se fait dans le foot français, sauf que quand tu es amené à titulariser Traoré et Cornet, on peut quand même se poser la question, est-ce que ça vaut le coup de changer pour mettre ces deux purs ailiers-là, vu leur niveau intrinsèque. Alors, je ne sais pas ce qu'ils ont fait sur ce match-là. Mais déjà, philosophiquement, c'est un petit peu bizarre, je trouve. En plus, si tu ajoutes la sortie de Reine Adélaïde à la mi-temps, ça fait quand même des joueurs assez individuels, on va dire, et un petit peu tête baissée, un petit peu amenés à sortir du projet de jeu collectif.
Ouais, mais ce qui est étonnant, c'est que c'est le refus de là de jouer en 4-3-3 par exemple. Alors c'est pas le système avec lequel Lyon évolue depuis quelques matchs, parce que c'était un 4-2-2-2 avec Touzar Mendes au milieu. Mais puisque Touzar n'est pas là, et que d'ailleurs après le match, Rudy Garcia a regretté l'absence d'impact de Lucas Touzar, pourquoi ne pas redensifier ton milieu en mettant un vrai milieu à 3 où Mendes aurait été la pointe basse, et Aouar et Reine Adélaïde les deux relayeurs dans les intervalles et jouer entre les lignes avec. Tu peux même garder tes ailiers, mais garder le même fonctionnement. Et c'est pour ça que je ne comprends pas non plus, comme dit Florent, la sortie de Reine Adélaïde à la mi-temps. Puisqu'après, il fait entrer donc Jean-Lucas à côté de Mendes. Il avance un peu Aouar. Qu'est-ce qui t'empêche de faire la même chose avec un Mendes, Reine Adélaïde, Aouar, qui va au milieu de terrain quand même te gratter pas mal de ballons? Parce qu'Reine Adélaïde, pour gagner un duel contre lui, c'est compliqué. Donc ça, on est arrivé avec Garcia à Lyon, à Marseille, avec un mec qui clairement était sur le 4-3-3 comme il l'a longtemps été à Lille et à la Roma, même s'il a aussi fait du 4-2-3-1 à la Roma. Là, je comprends pas pourquoi tu peux pas garder Mendes, Reine Adélaïde, Aouar, réorganiser ton milieu à la mi-temps avec les mêmes joueurs et remettre un peu plus de densité ou plus d'équilibre au milieu de terrain si tu juges que tu as été un peu en difficulté dans ce domaine-là, mais j'avais pas l'impression en plus que c'était le cas. C'était pour d'autres raisons que Lyon avait du mal. Je veux dire, tu mets les mêmes joueurs avec, je pense, l'intensité que mettait Marseille sur son temps fort. T'avais pas besoin de ressortir Reine Adélaïde. Et derrière, en plus, il regrette le fait qu'une fois Reine Adélaïde sorti et avoir blessé, il y a eu un manque de technicité pour profiter de la supériorité numérique. Comme ça, je fais une passe à Flo qui pourra parler de cette période-là en plus. Mais du coup, il s'est tiré une balle dans le pied parce qu'il dit lui-même que la sortie de Jihara a coûté cher parce qu'il n'y avait plus qu'à voir pour s'occuper de ça. Donc, c'est un peu dommage, je trouve, le scénario du match d'avoir fait, en fait, de la sortie de Reine Adélaïde une obligation, alors que ça me semblait pas du tout être le cas.
Mais surtout que. Pardon. Surtout que, en fait, tu peux aussi, t'as pas évoqué cette possibilité, mais tu peux sortir Cornet ou Traoré et mettre Reine Adélaïde sur un côté. Même si c'est pas son poste ou plus son poste favori, t'avais largement la possibilité de le faire. Et de toute façon, sur la première mi-temps, il était plus performant que l'un ou que l'autre. Donc t'aurais pu faire ça, toujours faire entrer Jean-Lucas pour ajouter l'impact dont tu avais a priori besoin si on l'écoute. Et tu gardais tout le monde, et au moins en cas de blessure d'Aouar, tu avais toujours Reine Adélaïde pour prendre la suite dans l'axe.
Je pense que tu pouvais même garder un 4-2-2-2 avec un Mendes, Jean-Lucas, Reine Adélaïde, Aouar dans des faux couloirs, et tu peux mettre Terrier à côté de Dembélé. Je pense que c'est un rôle qui lui conviendrait aussi, parce qu'à Strasbourg, c'était un peu le rôle qui tenait de mec qui accompagne un attaquant un peu plus consistant et avec un plus grosse occupation de l'espace. Donc ça, j'avoue que j'ai pas J'ai pas bien compris, surtout que c'était assez quand même unanime que Rennes Adelaide, peut-être avec Aouar, était le joueur qui faisait le plus de différence en première. Et quand t'es mené au score, ça paraît étonnant de sortir du coup le gars qui va peut-être te débloquer la situation.
Florent, du coup, sur ce match-là, il y a une demi-heure qui se passe en supériorité numérique. Et globalement, il se passe pas grand-chose côté OL. Alors que bon, t'as beau être à l'extérieur, je veux dire. Voilà, dans un contexte assez festif, mais assez tendu aussi. Malgré tout, se procurer quasiment aucune occasion sur la dernière demi-heure, alors que t'es en supériorité numérique, il y a quand même un souci. Comment ça s'explique? Est-ce que c'est Marseille qui fait vraiment des choses très bien, ou Lyon qui, malgré tout, n'arrive pas à se mettre en ordre de marche pour être efficace?
D'abord, il y a eu ce qu'a évoqué Raphaël, c'est-à-dire la perte de Aouar après avoir perdu Reine Adélaïde, et du coup la perte de créativité, de technicité, de lien, on va dire, au milieu de terrain. Parce que il y a eu l'entrée de Cherki, mais qui a apporté beaucoup en percussion, qui a gratté quand même pas mal de coups de pied arrêtés. Je crois qu'il s'est fait sécher 4 ou 5 fois juste en une demi-heure de jeu, mais qui ensuite.
Ouais.
Mais dans le
Il
jeu.
réussit 5 dribbles sur son entrée.
Ouais, mais dans le jeu ensuite, c'était très heurté. Il n'y a pas eu de combinaison, il n'y a pas eu de jeu à plusieurs, c'était des initiatives très individuelles. Et en fait, ouais, moi j'ai trouvé de l'autre côté que Marseille a très bien joué l'infériorité numérique, a joué très intelligemment, notamment en s'appuyant sur la capacité de Payet, de Lopez, de Rongier à conserver la balle et à l'amener dans des zones bah, peu dangereuses pour le bloc marseillais. J'ai sorti la stat après le match sur Twitter, mais dans la dernière demi-heure, enfin. Pas exactement la dernière demi-heure, mais les 25 minutes passées en infériorité numérique, à partir de l'expulsion de Gonzalez à la 64e, il me semble, bah Marseille a tout simplement passé plus de temps, en tout cas, réussi plus de passes dans le dernier tiers lyonnais que Lyon n'a réussi de passes dans le dernier tiers marseillais. Et quand on regarde la situation, on voit clairement, quand on regarde les maps, qui sont là aussi sur Twitter, Marseille a tenté 59 passes dans le dernier tiers, Lyon en a tenté 40, et surtout Marseille en a réussi 48, Lyon n'en a réussi que 22. Et Marseille, c'était vraiment l'idée, on va amener la balle sur les côtés, on va pas chercher à marquer, on va pas chercher à vraiment faire une différence. On marquera peut-être sur un coup de pied arrêté si on obtient quelque chose ou pas, mais surtout on garde la balle et on fait des petites passes, des petites remises entre Lopez, entre Payet, entre Rongier. Sanson, même si Sanson est un petit peu moins efficace dans ce secteur-là, il est allé gratter pas mal de temps en faisant des longues courses côté gauche notamment. Et Marseille a réussi en fait à faire tourner l'horloge de cette manière-là. Et je trouve dans cette gestion-là du match et de l'infériorité numérique beaucoup d'intelligence qu'on n'aurait peut-être pas vu la saison dernière ou les saisons précédentes. Et je me dis que ça vient peut-être du coach et de la construction de l'équipe. Où hier il avait quand même aligné Payet, Lopez, Rongier, enfin plusieurs joueurs
Sanson,
capables,
Camara.
Sanson, enfin plusieurs joueurs capables de tenir le ballon. Et du coup, ben là, ça a été utile puisque ça a permis de faire tourner la montre.
Raphaël, Camara au milieu, Lopez sur l'aile droite. Est-ce que c'est des trucs qui sont viables ou c'était simplement bon, Camara, c'est pas la première fois, mais ou alors c'était simplement adapté à l'adversaire et aux caractéristiques de l'équipe lyonnaise?
Bah, je pense que surtout, Villas-Boas a mis les meilleurs joueurs qu'il avait, et peu importe comment il les organisait sur le coup, parce que le banc c'était Kawi, Strootman, Germain, Abdallah, Ake, Pelé et Radonjic. Bon. Il a fait finalement ce que peut-être que ce que Garcia aurait pu faire, c'est-à-dire se passer des éléments qui sont peut-être moins intelligents dans le jeu. Là pour le coup, il avait beaucoup moins de percussion, même si Lopez a apporté des choses intéressantes dans le couloir, notamment en repiquant, il est pas maladroit au moment de fixer du coup et donner le bon ballon. C'est intéressant parfois d'avoir un milieu de terrain qui joue sur le côté, parce que justement il va faire des choix un peu plus intelligents que les véritables ailiers. Mais en l'absence de Thauvin, je pense que c'est limite la meilleure solution pour l'OM, c'est ça. Camara fait aussi partie des meilleurs joueurs marseillais sur le plan technique. Alors peut-être que le fait de le remettre au milieu va lui faire du bien pendant quelques temps, le temps qu'il se construise un peu plus musculairement pour le poste de défenseur central, parce qu'au duel il a tendance à exploser, et même dans la lecture des trajectoires c'est pas encore exceptionnel. Mais non, il a eu la stratégie révolutionnaire de mettre les meilleurs joueurs qui sont dans son effectif disponibles sur le terrain. Et peut-être que Lyon aurait eu de meilleurs résultats en faisant la même chose. On peut parler de Cherki aussi, qui sur son entrée, je pense, fait pas moins bien que Traoré ou Cornet, voire mieux, je pense. Donc non, c'était assez intéressant de voir Lopez d'un côté et Payet de l'autre, parce que les gars rentrent tout le temps à l'intérieur, ils ont des passes intéressantes, ils voient des choses que les autres ne voient pas forcément. Et justement, quand les deux arrivaient à se trouver, et c'est d'ailleurs sur l'action du deuxième but de Payet, je crois que c'est Lopez qui sert Payet, il
Je
me
sais pas
semble.
s'il le sert directement, mais c'est lui qui initie le mouvement vers
Ouais,
l'intérieur en fait.
qui revient vers l'intérieur, et Payet qui justement, lui, vient dans cette zone-là aussi, avec Benedetto qui fait un appel qui emmène un défenseur. Bah, voilà, d'avoir cette liaison technique un peu entre plein de joueurs qui sont plus des profils de milieu que des profils d'attaquants, c'est parfois très intéressant. Après, tu t'appuies évidemment sur le match, sur la qualité de finition de Payet de 20-22 mètres, parce que cette frappe-là, elle est compliquée, et peut-être que si tu l'as pas lui sur le match, tu restes beaucoup plus stérile. Marseille ne finit qu'à 10 tirs. Mais en tout cas, c'est un look marseillais plutôt intéressant et plutôt joli. On peut parler de Rongier aussi, qui je trouve fait un bon match dans la conservation, dans l'orientation du jeu. Alors en termes de gestuelle, je vais faire une comparaison scandaleuse, mais en termes de gestuelle, il a des. Juste dans l'attitude et la dégaine au moment de porter le ballon, je trouve qu'il ressemble un peu à Verratti. Après, dans la manière de jouer, c'est complètement différent. C'est un joueur qui prend moins de risques, qui conserve moins bien le ballon, qui est moins créatif. Mais dans la capacité à conserver le ballon sous pression et à le sortir de la densité, il a été très bon lui aussi. Donc vraiment un bon match marseillais contre une petite équipe lyonnaise. C'est pour ça que c'est encore difficile de mesurer les performances marseillaises, parce que les meilleurs arrivent toujours contre des équipes en difficulté. C'était Monaco la dernière fois qu'on avait parlé en bien de Marseille, je crois, à peu près. Donc à voir sur la durée comment ça va évoluer.
Florent, qu'est-ce que tu veux souligner, toi, comme performance individuelle? On va peut-être devoir parler de Payet aussi.
Oui, bah Payet, il était énervé, on va dire, avant le match. Il avait beaucoup parlé. Et finalement, il a répondu. Après, il a fait un match assez classique, parmi ses bons matchs en fait, tout simplement. Côté gauche, où très souvent, tout à l'heure, Raphaël parlait de sa relation avec Lopez. Il cherchait à rentrer sur son pied droit pour trouver une passe à l'intérieur vers un Marseillais qui se lançait entre les lignes. Ça, je pense que ça a été un petit peu étudié côté marseillais parce que c'était quasi systématique, soit Lopez d'un côté, soit Payet de l'autre. Et ensuite, oui, on a vu sa qualité de finition, son penalty aussi, ou mentalement quand même pendant 6 minutes, il faut pas, faut prendre son temps, faut pas sortir du truc. Et il a parfaitement tiré. Après, qu'est-ce que tu veux dire de plus? C'est le joueur qui tire le plus dans le match. Il termine à 5 frappes, 2 buts, 3 tirs cadrés. Et ensuite, en termes de passes, je crois que c'est un de ceux aussi qui est le plus visible dans le dernier tiers. C'est celui qui crée le plus d'occasions, qui centre le plus. Il est troisième en termes de passes dans le dernier tiers. Enfin bref, il fait un match ultra complet. Maintenant, enfin, c'est du Payet. Est-ce qu'il refera le même match enfin, pas dans une semaine, mais dans deux? Là, la question se pose toujours. Mais au moins, il a été présent sur ce rendez-vous-là. Et les Marseillais risquent de s'en rappeler, puisque c'est leur première victoire, je crois, depuis 5 ans à domicile face à Lyon. Donc au moins elle sera marquée de sa patte à lui, quoi. Voilà.
Et puis de toute façon, pour Payet, maintenant à 32 ans, faut accepter le type de joueur que c'est,
Oui.
qui finalement pas si éloigné du joueur qu'il était à 25 ans, assez irrégulier, avec des pics assez hauts et des moments plus compliqués. Alors j'ai l'impression que maintenant c'est plus sur un match ou deux de temps en temps, alors que quand il était au pic de sa carrière, c'était sur 2 ou 3 mois où il était vraiment bon. Et ensuite, tu avais des creux d'un mois ou deux derrière. Là, c'est vraiment qui tout double avant les matchs, mais au moins il a répondu, comme tu le disais, par rapport à ce qu'il avait annoncé avant match. Du coup, ça montre quand même une certaine force de caractère pour assumer, parce qu'il s'était quand même mis en première ligne de façon qu'on peut juger un peu maladroite, si on sait ce que Garcia a fait pour lui dans
Mais
sa carrière, mais bon.
dans l'effectif, j'ai l'impression que c'est pas le seul qui avait une certaine haine de Garcia, hein, quand même. Parce que quand il gagne le match, même quand il marque le deuxième but, tous les joueurs marseillais,
Ah
t'avais
bah oui,
l'impression. Enfin, c'est très bizarre l'héritage qu'il a laissé Garcia et la sensation qu'il a laissée auprès de ses joueurs.
Après, j'ai un
Après.
peu l'impression qu'il a laissé la même sensation dans tous les clubs où il est passé, un petit
Ouais,
peu.
peut-être.
Donc, parce que quand tu entendais notamment Ludovic Obraniak, qui pour le coup avait un petit peu taclé Payet après sa déclaration, mais Obraniak aussi a eu de très très mauvais souvenirs avec Garcia à Lille, et je pense qu'ils sont assez nombreux, qui sont d'ailleurs devenus consultants pour certains, et à chaque fois les entendre parler de Garcia, tu sens qu'ils sont quand même un petit peu sur la retenue.
Après, déjà, il a un mode de fonctionnement qui est assez particulier, avec le fait d'instaurer des conseils des sages, d'anciens, qui lui servent un peu de relais au sein du groupe, avec à chaque fois 4, 5, 6 joueurs qu'il nomme un peu comme porte-parole, qu'il identifie comme étant les gens qui vont lui permettre de porter sa voix directement dans le vestiaire. C'est un mode de fonctionnement qui me semble assez rare et qu'à
Après,
la
ils
limite,
le
tu
font au
fasses
PSG aussi,
ça.
hein, cette année.
Oui. Après, je veux dire, c'est pas. Enfin, concrètement, je ne crois pas que ça soit négatif. Dans l'absolu, c'est-à-dire que par exemple, si tu fais ça à la Roma avec Totti et De Rossi, Je pense que globalement, l'organisation du vestiaire fait que c'est déjà un peu le cas dès le départ. Donc, du coup, c'est normal de t'appuyer sur ces joueurs-là. Après, quand tu fais ça dans tous les clubs, parfois, c'est pas pertinent parce que tu vas être obligé que ton 3-4e relais, ça soit un mec qui soit pas très ancien, dont la voix porte pas, qui soit pas forcément plus légitime niveau charisme que le 6, 7, 8e que tu mettrais dans ta liste. Là, par exemple, à Lyon, tu vois, quelles sont vraiment les sorties de Lopez et quelques autres, quels sont les joueurs les plus charismatiques de cette équipe? Est-ce que tu vas plus se responsabiliser Dubois que Aouar, que Dembélé? Tu vois, c'est assez compliqué vraiment d'à chaque fois former des groupes de 5-6 et ça crée des ressentiments, à la fois si ces joueurs qui se sentent privilégiés sont un peu écartés du projet pour des raisons sportives notamment, ou à l'inverse, si, enfin, quand toi t'es pas dedans et tu te dis mais tiens, pourquoi est-ce que lui est un appui privilégié du coach alors que finalement il n'est pas plus vieux que moi, il n'a pas plus prouvé, etc. Donc, ça fait partie des méthodes qui peuvent un peu crisper un investisseur, au-delà du fait que, sans vouloir mettre des tacles gratuits à Garcia, mais de ce que j'en sais à Lille notamment, pour avoir été un peu aux premières loges de ça, il y a une tendance au double discours quand même qui peut poser souci dans les vestiaires
C'est ce
et
que
un
disait un peu
problème.
Payet. Il disait Villas-Boas, il te dit un truc, il dit la vérité, il répond aux questions. Alors que peut-être que Garcia est dans la manipulation permanente. C'est un peu ce que disait Landreau d'ailleurs aussi sur le plateau du Canal Football Club. Quand j'ai regardé un peu juste avant le match, il disait ouais, Garcia il aime bien exister, il aime bien se servir de ces choses-là. Et il le disait d'une manière assez. Tu sentais que c'était contrôlé comme discours de la part de Landreau aussi.
Oui,
Sachant
bah.
que Landreau aussi, quand on parle d'hommes politiques, façon de parler, de gens qui savent bien maîtriser leur com,
Landreau, excellent. Hein. Landreau pourrait faire. Je pense qu'il serait presque meilleur en tant que président qu'en tant que coach, parce qu'il sait vraiment quoi dire, à quel moment. Et pareil, ça à Lille, ça avait aussi pu poser quelques mini-soucis. Si on parle encore des prestats individuels, allez, je vais relancer Raphaël. Est-ce que tu as d'autres gens que tu voulais mettre en valeur? Tu avais rapidement parlé de Rongier. Est-ce que tu veux développer sur lui ou parler d'autres gens?
Alors, il y a des choses positives, il y a des choses un peu plus négatives. Bon, Gonzalez, je pense qu'il fait la performance classique de Gonzalez, c'est-à-dire qu'il défend. Mais je crois que en plus, on m'a parlé sur Facebook et tu me disais que lui-même en était conscient, mais il joue quasiment exclusivement à l'énergie.
Ouais, il lui-même dit qu'il sait pas vraiment jouer au foot et que s'il n'était pas un peu taré et à rien lâcher, il jouerait en Détroit, quoi.
C'était un dialogue
Ouais.
avec Messi, ça, de toute façon.
Oui, aussi,
Ouais.
il
Ça
dit
change
à
sur le terrain.
Messi. Il dit à Messi, t'es petit. Et Messi lui répond, tu sais pas jouer au foot. Et Gonzalez dit, ouais, je pense qu'on a tous les deux raison.
Ce qui est plutôt pas mal comme dialogue. Non, mais du coup, voilà, c'est le genre de match où il paye un peu ses limites-là. Parce qu'en plus, athlétiquement, alors, il est fort au duel, mais il n'est pas forcément rapide, il n'est pas forcément plus costaud que les adversaires. Et il explose complètement contre Dembélé sur le deuxième carton jaune. Sur les autres performances individuelles, bon, après, on peut parler du niveau des latéraux lyonnais, avec un Koné qui lui aussi, je pense qu'il devrait peut-être un peu plus jouer à l'énergie, pour le coup. Parce que techniquement il était encore en grande difficulté. Mais sinon, j'ai pas forcément de grosses performances individuelles notables. J'ai bien aimé l'entrée de Cherki, qui
Alors que
était pour
pourtant, on va dévoiler un secret, mais tu n'es pas un grand fan du joueur, quand on en discute entre nous et de son
Non, mais.
style.
Alors, je suis fan des qualités, mais de ce qu'on voit des vidéos, c'est un joueur qui a un registre très très exclusif de. Alors, il est capable de jouer des deux pieds, il a une bonne vision de jeu, ça c'est intéressant. Mais son réflexe, c'est la percussion. Et je ne sais pas si ce sera une chose qui va évoluer ou il va varier un peu plus, ou s'il va être tellement fort dans la percussion que finalement, bah, tant mieux pour lui, et il va faire des diffs à chaque fois. Là, pour le coup, il est entré, tu n'avais pas l'impression que c'était un premier match, ou qu'il avait 16 ans, ou qu'il avait un retard athlétique à combler sur ses adversaires. Et c'est aussi pour ça qu'il est aussi fort à cet âge-là, c'est qu'il est. Athlétiquement et notamment les cuisses hyper formées, ce qui fait que du coup sur les 2-3 premiers mètres, bah, il est plus fort que même des mecs qui ont 23-24 ans et qui sont à leur pic de forme. Il a été très fort pour faire des différences. Alors comme dit Flo, il obtient beaucoup de coups francs. Et du coup, moi le Cherki, je veux voir quand il obtiendra plus que des coups francs, parce que je pense qu'il va se faire découper en Ligue 1 plus vite et se faire stopper plus vite qu'il ne se faisait stopper en N2 ou N3 ou avec les jeunes, ou peut-être que les mecs sont moins forts et du coup arrivaient pas à le rattraper. Là, dès qu'il va passer, il y aura faute. Et bon, après, ça peut provoquer des cartons jaunes et des cartons rouges. Et peut-être que ce sera comme Messi contre Delorme à une époque. Et les mecs vont exploser à chaque match. Mais du coup, j'ai plutôt bien aimé son entrée. Et vu qu'en ce moment, mes takes sont catastrophiques entre mon comment dire. J'hésite. Je vais trouver un mot. Mais mes difficultés avec Bouanga et mon manque de conviction par rapport à Cherki, malgré son talent, bah j'ai tort en fait, je ne comprends pas. Donc, belle entrée de Cherki à noter.
Sachant que
Sinon.
si Cherki jouait à Barcelone, il serait indirectement responsable de 5 buts par match, puisque Messi met 40% de ses coups francs
Oui,
en
voilà,
ce
oui,
moment.
j'ai vu.
Du coup.
J'ai vu la stat là sur les. Je crois que depuis 2018, il a tiré 75 coups francs, il en a mis 18 ou un truc comme ça, il en a mis 16. Enfin, il y a un coup franc sur 5 qui rentre depuis 2 ans. Ce qui est énorme, sachant que d'autres sont en grande difficulté. Ronaldo est à 0 sur 28, par exemple. Donc, non, mais belle entrée de Cherki. Je pense que rien que sur ces 30 minutes qu'il joue là, il pourra gratter pas mal de temps de jeu sur les semaines à venir et il a pas grand-chose. Je pense même qu'il a rien à envier à du Traoré ou du Cornet et que très vite il va apporter plus.
Florent, je te laisse le mot de la fin sur ce match, vas-y.
Non, c'était.
C'est ça.
C'est embêtant hein,
Non,
comme relance.
puis on est déjà assez en retard. Non, mais au moins ça met Marseille à la deuxième place, ça met Lyon assez loin. La question, ça va être de savoir, est-ce que Marseille, on a souvent posé cette question-là après les matchs de Ligue des Champions de l'OL, c'est est-ce que Marseille peut construire sur ce succès-là? Peut-être par rapport à ce qu'ils ont fait. Moi, je retiens vraiment ce qu'ils ont fait en infériorité numérique parce que c'est la preuve, à mon sens, d'une équipe qui réfléchit maintenant. Et c'est peut-être quelque chose qui n'était pas le cas la saison dernière. Et c'est peut-être ce qui peut leur permettre de rivaliser sur la durée avec, enfin, dans la course à la Ligue des Champions, alors qu'ils sont, malgré tout, faut le reconnaître, beaucoup moins armés en termes d'effectifs et en termes de profondeur surtout. Que l'OL ou même que l'AS Monaco qui est aussi derrière.
Une équipe qui est bien armée, Florence, c'est Liverpool, qui a gagné 3-1 face à Manchester City quelques heures plus tôt dans le choc. Du coup, ce qui donne un truc assez incroyable, parce que Manchester City se retrouve quatrième du classement derrière Leicester et Chelsea, et à, tac, 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 à 9 points de Liverpool après 12 journées. Pourtant, toi, l'un des trucs qui t'a marqué, c'est la différence entre le score et les analyses que certains peuvent faire par rapport au score et ce qui s'est véritablement passé sur le terrain.
Oui, bah quand j'ai entendu notamment Eric Dimeco pendant le match parler de dérouiller de Liverpool sur ce match-là face à Manchester City, c'est difficile d'être d'accord. Il suffit déjà de se pencher sur les XG qui sont assez équilibrés. Je crois qu'on est à 1,2, 1,3 ou dans ces eaux-là et des deux côtés. Et quand on prend les non-shot expected goals, donc c'est toutes les statistiques mis à part les tirs, qui donnent une idée a priori du nombre d'expected goals qui devraient être créés en fonction du nombre de passes réussies dans les 30 derniers mètres dans la surface, etc., etc. Là aussi, Manchester City était devant. Et alors certes, Liverpool a ouvert le score très vite, mais j'ai trouvé le match beaucoup plus équilibré que ce que le score a laissé paraître. Après, la différence s'est faite à un endroit, enfin à deux endroits, c'est dans les deux surfaces, où Liverpool a parfaitement défendu sa surface de réparation, ou quasi parfaitement, puisqu'ils ont fini par prendre un but quand même. Et alors qu'en face, Manchester City, à partir du moment où ils n'arrivaient pas à récupérer la balle très haut, par le biais de leur pressing, là ça devenait très compliqué. Et quand tu vois les buts qu'ils prennent, et particulièrement le troisième but, où tu as toute la défense qui se fait éliminer sur le centre avec la tête de Mané à la fin, mais le deuxième au final c'est un petit peu la même chose d'ailleurs. Tu vois la différence entre les deux. Il manquait un. Je pense que si t'inverses les défenses, t'inverses le score aussi quoi. Voilà.
Mais Raphaël, est-ce que c'est pas justement l'histoire de la construction de cette équipe de City par rapport à celle de Liverpool et qu'en plus les blessés, de se dire que si tu me dis juste après le match, il y a eu autant d'occasions pour les deux équipes, de savoir que Liverpool a forcément gagné, puisque la défense de City ne sait pas subir et a vraiment, on en avait déjà parlé dans
J'ai
le
l'impression
dans
qu'on fait
le
le même podcast à chaque fois, après Liverpool City.
Ouais, mais déjà après les matchs de City, j'en avais parlé après le Atalanta City où je disais que City avait beaucoup de mal en défense placée, que c'était déjà un truc assez récurrent. Bon, il n'y a pas qu'en défense placée, mais voilà, ça fait partie des trucs où c'est problématique. Et c'est vrai que là, le Liverpool City, enfin, moi, on en parlait avec Julien avant le match, moi je sentais un 4-1 pour Liverpool, donc j'étais pas si loin pour une fois. Mais c'est vraiment passé quasiment tout ce qui était attendu sur les dynamiques et le type de défense et d'attaque des deux côtés.
Ouais, et puis en plus, depuis la blessure de Laporte, on sait très bien qu'il n'y a pas un mec en qui tu as vraiment confiance pour diriger la défense. Bon, Stones, je pense que ses limites maintenant sont connues, et malgré, je crois que ça fait 3 ans maintenant que Guardiola est là, presque, oui, plus de 3 ans. Il n'a pas quand même fait beaucoup de progrès sur le plan défensif. Kyle Walker, on connaît aussi ses limites, hein. C'est lui qui s'endort sur le centre d'Anderson ou Mané passe au deuxième poteau. Et finalement, le mec qui est le plus fiable défensivement dans ta ligne défensive, c'est Fernandinho, qui, au départ de la saison, devait être le numéro 1 ou numéro 2 au milieu de terrain. Et ça devait être Laporte, Stones, Otamendi, dans l'axe de la défense. C'est assez malheureux, mais ce n'est pas non plus très étonnant quand tu vois la politique de recrutement de City, qui en fait, je pense, depuis du coup début 2018, perd les matchs qu'il aurait gagnés sans doute s'ils avaient pris Van Dijk au lieu de prendre Laporte finalement au moment où en janvier 2018, ils disent Van Dijk c'est trop cher, du coup on va prendre Laporte. Bah, depuis, les courbes des deux équipes s'expliquent un peu à travers ce recrutement, parce que là même avec Lovren, finalement, Liverpool arrive à défendre. Et ça, c'est assez miraculeux. Hein. Quand j'ai vu Lovren titulaire au début du match, je me suis dit, voilà, il y a forcément un but que tu vas perdre là-dessus. Et puis finalement, non. Donc l'histoire du match, comme disait Florence, c'est la supériorité de Liverpool dans les deux surfaces, et même en dehors de la surface pour Fabinho. Parce que du coup, il met un but qu'il n'a pas mis dans sa carrière, je crois. J'ai pas souvenir d'une frappe de loin à Monaco, et avec Liverpool, il frappe jamais de loin en général. Il a orienté le jeu.
Ah, il y en a peut-être eu une avec Monaco. Enfin, je savais
Ouais.
qu'il avait une grosse frappe, donc j'avais déjà dû le voir en mettre une ou en tenter au moins une qui était bien partie. Mais là, pour le coup, elle est très bien partie. Merci Gundogan pour la passe D, au fait. Sur celle-là,
Et
sur un
merci à
pied.
Agüero qui veut pas jouer l'action au début alors qu'il est dans la surface parce qu'il est occupé à demander une main.
Ouais, c'est
Ouais.
vrai.
Merci pour ton match, Kun.
Mais tu sens l'équipe complètement traumatisée par la VAR aussi, hein, City. Ça, c'est ils ont quand même du mal à gérer ça. Puis ils prennent un but, évidemment, 5 minutes après le premier, enfin 7 minutes après le premier, comme d'habitude à Anfield. Voilà, c'est le scénario un peu habituel, alors que finalement, je pense que c'est peut-être le meilleur match de City à Anfield, malgré les absences. Angelinho, qui couloir gauche, a fait des choses assez sympas offensivement, bon, qui après défensivement était en difficulté. Sterling, qui est très bon en deuxième période, hein, De Bruyne aussi, qui fait des différences. Sur l'ensemble du match, je pense que c'est peut-être un des meilleurs de City à Anfield, parce que ils prennent 2 buts en 7 minutes, certes, mais sur un temps fort de Liverpool qui n'en est pas vraiment un.
Ils ont des
Alors
occasions
que,
entre-temps en
ouais.
plus.
Alors que jusque-là, on se souvient des matchs où Liverpool gagnait en Ligue des Champions ou en championnat à domicile, il y avait toujours eu une période ou une séquence où tu sentais City complètement dépassé par les événements. Là, c'était pas le cas, et c'est pour ça que c'est peut-être encore plus cruel pour Guardiola ce coup-ci.
Qu'est-ce qu'il y avait d'intéressant dans le match de City, Florent? Les sorties de balles, par exemple, est-ce que ça peut faire partie, même si on le sait, des choses intéressantes du côté des hommes de Guardiola?
Ouais, les sorties de balles parce que en fait, Raph parlait à l'instant des matchs de Ligue des Champions où Liverpool faisait exploser totalement City. Il faisait notamment exploser City par leur pressing avec une équipe qui était à ce moment-là incapable de sortir de son camp, qui prenait des vagues et ça revenait, ça revenait, ça revenait. Et en fait, sur ce match-là, on n'a absolument pas vu ça et on a vu des sorties de balles de City plutôt bien orchestrées et très souvent des situations qui arrivaient où tu trouvais De Bruyne et tu lançais quasiment des 4 contre 4 avec 40 mètres dans le dos de la défense, et une défense qui recule de Liverpool. Et le problème arrivé là, c'est que City n'a pas réussi à transformer énormément de ces situations en occasion de but, alors qu'en face, Liverpool, il suffisait de deux transversales et d'un centre pour que la défense prenne l'eau et finalement prenne un but. Mais c'est vrai que les sorties de balles de City ont été intéressantes parce que j'ai pas l'impression que Liverpool ait gratté énormément de ballons dans le camp adverse, alors que d'habitude, c'est ce qu'on attend des équipes de Klopp. Et j'ai vu en effet plusieurs situations qui auraient pu être peut-être mieux jouées parce que tu avais un ou deux joueurs peut-être de la ligne de 4 de devant qui étaient un petit peu en dessous, Bernardo Silva et Agüero par rapport à De Bruyne et Sterling que Raphaël a déjà cité. Ensuite, au-delà de ça, qui à mon sens a permis à City d'avoir la maîtrise, enfin d'avoir le contrôle du milieu de terrain, mais en face t'avais aussi une équipe de Liverpool qui était beaucoup plus compétente. On en revient à ce qu'on disait tout à l'heure pour défendre en nombre et défendre bas, ce qui fait que ils n'ont pas forcément réussi non plus à convertir toutes ces situations. Mais en gros, c'est vrai que le problème enfin les solutions à trouver face au pressing de Liverpool, j'ai l'impression que City les a trouvées depuis la saison dernière. Maintenant, en fait, entre-temps, Liverpool s'est vraiment amélioré dans d'autres domaines, et notamment la défense et la défense basse, ce qui permet à cette équipe désormais de subir et de sans vraiment concéder énormément de situations.
Mais est-ce que Florence, finalement, c'est pas un peu l'aboutissement avec ce qu'il y a de bien et ce qu'il y a de pas bien des choix de Guardiola sur le plan défensif, à savoir que tu as pris tellement de joueurs à adapte des relances courtes et capable vraiment de jouer sous pression. Du coup, tu peux contourner quasiment n'importe quel pressing, mais d'un autre côté, c'est extrêmement compliqué d'avoir des joueurs qui sont à la fois bons avec leurs pieds et compétents défensivement. Et du coup, bah, tu es vraiment sur des joueurs qui sont tout sauf défenseurs dès que tu dois être dans tes 40 mètres. Du coup, bah, tu es un peu sur un qui tout double. où on peut contourner le pressing. Donc du coup, si les joueurs offensifs qui vont ensuite bénéficier des espaces créés assez bas sur le terrain sont capables de les exploiter, tu vas réussir à marquer des buts et pourquoi pas gagner les matchs. Mais de notre côté, tu pourras jamais subir en fait, parce que dès que tu subis, on va voir tes limites défensives. Est-ce que c'est pas justement un peu la caricature du truc de Guardiola avec des défenseurs qui sont des très bons relanceurs mais qui savent pas défendre?
Après, on en revient à la question de l'efficacité. À 1-0 pour Liverpool, entre le 1 et le 2-0, City a deux grosses occasions sur coup de pied arrêté, avec deux opportunités pour revenir à un partout. Je pense que si, enfin, évidemment, s'il y a l'égalisation, le match change totalement. Après, oui, je vois ce que tu veux dire sur le fait que City, à partir du moment où ils n'auront pas le contrôle, et où ils seront dans une situation de 50-50 en termes de tir, le match basculera forcément du côté de l'adversaire. Maintenant, aujourd'hui, quand tu prends les deux 11 de départ alignés, de toute façon, en termes de qualité des joueurs, tu as du mal à. C'est difficile de rivaliser si le match part sur ce genre de scénario. Après, voilà, tu l'as dit toi-même, ils avaient beaucoup de blessés. Est-ce que City a 11 contre 11 aurait mieux rivalisé face à ce Liverpool-là, enfin pas 11 contre 11, mais avec Laporte, avec Mendy, qu'est-ce qu'il y avait encore de blessé?
Après, ce qui est intéressant, c'est qu'il fait qu'un seul changement sur le match
Ouais, il n'y
Guardiola.
a
Il fait
que
entrer ni
Gabriel
Mahrez,
Jesus
ni
qui
Bernardo
rentre.
Silva, ni Cancelo, ni
Ouais.
Foden, même qui aurait pu. Ça, c'est assez curieux. Je sais pas ce que tu en as pensé, mais je me rends compte là en voyant le résumé de match WhoScored, où Liverpool fait entrer trois joueurs justement pour essayer de changer un peu la fin de match où il y a un vrai temps fort de City après le but de Bernardo Silva.
Puis il y a Salah qui doit sortir aussi
Ouais.
sur blessure.
Mais c'est assez curieux de pas avoir vu Mahrez ou Silva qui, je pense, sur la fin de match, aurait pu apporter plus de choses depuis le côté droit, peut-être faire remettre un Bernardo hein, encore plus à l'intérieur ou David Silva à l'intérieur. Parce que Gundogan sur le match, comme d'habitude contre Liverpool, bah il est pas au niveau en termes d'intensité et de rythme de jeu. Quand tu vois la performance de Wijnaldum de l'autre côté ou d'Henderson,
Ouais,
c'est assez
personnellement.
incompréhensible.
En termes de coaching, je m'attendais à une sortie par exemple de Gundogan et un remplacement de De Bruyne un peu plus bas pour mettre Mahrez et quitte à mettre
Ouais.
Bernardo dans le milieu, quoi, par exemple. Je
Il l'avait
m'attendais à
déjà
quelque
fait.
chose comme ça.
Mais tu vois, sur ce que disait Christophe sur l'aspect défensif, alors il y a l'aspect, il y a la qualité individuelle aussi, mais il y a également, je trouve, les situations qui, à mon avis, peut-être parce que Guardiola est un obsessionnel de la sortie de balle et de ce qu'ils font avec le ballon, une équipe qui ne sait pas du tout comment faire une fois que le premier rideau est éliminé. Parce que finalement, quand tu regardes les situations où Liverpool se crée des occasions, souvent, c'est parce que la première, la deuxième, la troisième passe ne sont pas stoppées par City et par son pressing à la perte. Et derrière, tu sens des joueurs qui, dans un bloc médian ou bloc bas, ne savent absolument pas ce qu'ils doivent faire.
Ah
Et
ben c'est on court vers notre but quoi, c'est tout.
parce qu'ils ne le bossent jamais, je pense. Et c'est
Oui, c'est
beaucoup de
possible, ouais.
faire les réflexes. Mais genre, tu as des situations qui sont dingues, où il suffit d'une transversale, j'en parlais avec Julien, d'une transversale de Arnold vers Robertson. Et d'ailleurs, c'est une passe que fait de plus en plus Liverpool et qui gêne pas mal d'équipes. Mais une fois que la transversale est faite et que Robertson, du coup, a 20 mètres pour avancer, tu vois un City qui perd toute son agressivité, qui va plus cadrer le porteur, qui, une fois qu'elle doit défendre en reculant ou même défendre en bougeant d'un côté à l'autre, dès que c'est plus en avançant vraiment verticalement vers le but adverse, je sais pas quel repère ils ont à ce moment-là. Parce que c'est pas la première fois que dès qu'ils sont à moins de, enfin à plus de 40 mètres du but adverse, tu sens des joueurs déconnectés. Et en plus, Rodrigo Gundogan est milieu de terrain face aux incursions de Henderson, de Wijnaldum, face au décrochage de Firmino. Dès que t'es sur des espaces un peu comme ça où c'est plus grand, c'est très très compliqué.
Raphaël, sur les prestats individuels, tu l'avais un peu effleuré. Autant rentrer un petit peu plus dans le détail sur Wijnaldum notamment. Sur, si tu fais
Ouais.
la comparaison avec certains milieux d'en face, notamment Gundogan, c'est pas trop en faveur de City.
Ouais, mais alors en plus c'est intéressant parce que Fabinho marque un but et Darcy Henderson fait une passe D, mais je trouve que le meilleur milieu de terrain, ça a été Wijnaldum. Il a vraiment été très bon. Pour garder le ballon, pour le ressortir sous pression malgré l'intensité de City à la perte de balle. Il élimine plusieurs fois comme ça le milieu de terrain. Alors après, c'est pas lui qui va faire la différence et trouver une passe qui va éliminer deux ou trois joueurs. Mais déjà, d'avoir réussi à éliminer ce pressing, il a été bon aussi défensivement. Il a gratté quelques ballons importants au milieu de terrain. Il a été vraiment très bon sur cet aspect. Tu vois, c'est intéressant parce que d'habitude, quand Liverpool bat City, il y a toujours un joueur qui a été exceptionnel. Et souvent, il y a un Mané ou un Firmino ou un Salah qui a été au-dessus du lot. Je trouve pas que les trois offensifs ont été particulièrement en vue. En tout cas, il n'y en a pas un qui m'a impressionné plus qu'un autre sur la rencontre. Mais Wijnaldum a vraiment paru au-dessus. Alors après, il y a l'apport des latéraux, évidemment. Mais je pense que le fait qu'on trouve du coup pas d'énormes performances individuelles de Liverpool, c'est aussi, ça montre aussi que City s'en est mieux sorti sur le contenu que d'habitude. Et malgré tout, ils prennent quand même 3 buts. Alors peut-être qu'on parlera de bravo ou pas sur ce match, mais je trouve que les 2 premiers buts, au moins, sont compliqués à sortir. Mais ouais, Wijnaldum, je l'ai trouvé vraiment excellent et il continue d'être dans ces matchs-là. Un joueur qui se dépasse à chaque fois et qui est hyper complet. Hein. Klopp en parlait comme le milieu vraiment qui a tout et qui est parfait pour jouer au foot. C'est vrai que si tu lui rajoutes juste une passe un peu créative, une qualité dans la dernière passe, là ça deviendra un monstre. Mais déjà ce qu'il produit, ça explique aussi que les Keita et les Oxlade n'arrivent pas à rentrer dans l'équipe.
Et ce qui est amusant, alors je sais pas quel âge tu donnes à Wijnaldum et à Gundogan, là, comme ça.
Du coup, je viens de voir celui de Wijnaldum qui est 29, mais Gundogan, je dirais qu'il est peut-être un peu pareil ou un peu plus âgé.
Ouais, c'est ça, ils ont 3 semaines d'écart, donc ils ont tous les deux 29. Et quand tu vois l'évolution de carrière des deux, parce qu'à l'époque où Gundogan était au top, Wijnaldum était un ailier au PSV. Et là, tu vois qu'à 29 ans, il y en a qui arrivent encore à progresser sur le plan tactique, sur le plan de l'intensité, à répéter les performances de semaine en semaine, alors que Gundogan ne progresse pas même sur. Enfin,
Il a
il
été
n'arrive pas à
surpassé,
combler ses
mec.
points faibles et ses points forts sont presque moins forts qu'à l'époque. Du
Ah.
coup, l'évolution de carrière, c'est assez embêtant pour les deux, qui sont quand même dans un. Parce qu'on a beaucoup parlé des sorties de balles, de la défense, etc. Mais c'est aussi au milieu de terrain que peuvent se gagner ce type de match.
Ouais, mais après Gundogan, il a été très souvent blessé, il me semble, entre la fin de sa
Oui,
période à
aussi, oui.
Dortmund et le début à City. Son corps doit avoir pris 3 ou 4 ans là-dessus, et c'est vrai que dans. Alors c'est curieux de voir quand même Guardiola continuer à l'aligner dans ces matchs-là. Je pense que peut-être un De Bruyne dans le même rôle aurait été plus intéressant et t'aurais pu mettre un David Silva qui a toujours embêté Liverpool entre les lignes. Mais Gundogan, à chaque fois qu'on regarde un Liverpool City et qu'on fait le bilan, on se dit ah, c'est le mec qui était en dessous. C'est lui qui a pas pu arrêter les transitions de Liverpool et en plus il perd des ballons dangereux. Et quand il la remet à Fabinho, il remonte pas du tout pour aller cadrer Fabinho. Alors c'était dans la foulée de la main réclamée par City, donc il y avait une espèce d'ambiance assez bizarre. Et d'ailleurs, il y a la moitié de Liverpool qui fête le but, l'autre moitié qui regarde l'arbitre. City, c'est pas vraiment si le but va être valable. Et d'ailleurs, Van Dijk disait maintenant avec la VAR, de toute façon, la plupart des buts, je les célèbre même plus. Mais c'était, voilà, c'est du Gundogan dès qu'il y a un peu d'intensité. Je pense qu'il est très fort pour jouer dans les matchs où City domine et a besoin de trouver des différences dans des espaces resserrés. Mais dès qu'il y a des matchs où ça va de but à but comme ça a été le cas sur les 2 premiers buts, c'est très très difficile pour lui.
Florent, est-ce qu'il y a une individualité que tu veux mettre en relief, toi, pour le côté positif ou négatif?
Il a parlé de Wijnaldum, je vais parler d'Anderson. Qui en termes de sprint et de course a aussi été fait un match assez incroyable et surtout une articulation où lui allait offrir des longues courses dans le dos de Salah et surtout d'Angelinho de manière à attaquer cet espace-là alors que dans le même temps tu avais Firmino qui décrochait dans le milieu et qui offrait des solutions entre Rodri, Gundogan, etc. Et je pense que cette articulation a en partie permis à Liverpool de sortir du pressing de City qui fonctionnait quand même plutôt bien dans les premières minutes du match. Et c'est à partir du moment où on a commencé à voir Firmino apporter des relais au milieu de terrain, même si c'était des choses très simples, il n'y avait rien d'exceptionnel. Et du coup, cette compensation avec Anderson qui lui faisait des longues courses vers l'avant pour faire reculer la défense, et du coup libérer Firmino, puisque forcément, on faisait un appel à profondeur avec la patte d'Alexander Arnold qui peut le servir à tout moment. Tu pouvais enfin soit faire reculer Angelinho, soit surtout attirer Fernandinho vers toi et du coup offrir à Firmino du temps et de l'espace pour décrocher. Je pense que ça a plutôt bien fonctionné côté Liverpool et ça a contribué à calmer, on va dire, le pressing de City qui fonctionnait pas trop mal quand même dans le début de match. Et ensuite, on est arrivé sur les problèmes qu'on a évoqués tout à l'heure avec City dans ses 40 mètres et une défense incapable de stopper les offensives adverses.
Raphaël, pour conclure, toi, tu voulais dire un mot sur Sterling, qui a peut-être, alors il n'a pas fait de stats, mais qui a peut-être fait son meilleur match face à son ancienne équipe, où il avait traditionnellement un peu de mal à se mettre en valeur et où il semblait un peu inhibé.
Ouais, jusque-là, il avait été assez cata, à tel point que sur les matchs précédents, Alexander Arnold, qui défensivement est souvent en difficulté, avait réussi à le stopper. Alors, il jouait parfois aussi du côté droit pour affronter Robertson et ça se passait encore moins bien. Mais là, notamment sur la deuxième période, je l'ai trouvé très très bon. Il était terrifiant même parce qu'il faisait la différence à chaque fois. Plusieurs fois, il élimine Arnold pour ensuite s'entrer en retrait du pied gauche. Et il y a deux, trois occasions de City comme ça où ça fait presque but. Il me semble que c'est Agüero à un moment qui rate un plat du pied juste face au but. Mais vraiment, il a énormément progressé sur l'aspect débordement. J'arrive à lever la tête et à trouver la bonne zone. Alors qu'avec City, il a d'abord progressé sur ses déplacements sans ballon et sur le fait de faire l'appel au bon moment. Là, il est devenu un vrai joueur de côté ultra complet, qui peut faire la différence sans ballon, qui peut faire la différence avec, que ce soit par le tir, par la passe, qui est capable de bien finir, capable de lever la tête au bon moment. Il m'a vraiment impressionné et je me suis dit que finalement, le Barça ou le Real, au lieu d'aller chercher des Dembélé ou des Hazard, ils auraient peut-être dû choper Sterling cet été dernier ou l'été d'avant, parce que là, il m'a vraiment, vraiment fait flipper sur l'ensemble du match. Et je regarde ses stats, là, je crois qu'il réussit 7 dribbles. Alors peut-être pas 7, mais il en tente au moins 7. Et dans des zones extrêmement similaires, là, je suis sur Euskaert, tu vois les 7, ils sont pile dans la zone excentrée, dans la surface à gauche. Et là, dans cette zone-là, il est vraiment, vraiment assassin. Et Arnold a vécu un cauchemar pendant une bonne partie de la deuxième période.
Merci Raphaël. On passe au dernier match qu'on va évoquer, le Classica entre le Bayern et le Borussia. Florent, match que nous avons vu tous les deux. Raphaël devait être en train d'entraîner ses U12, donc du coup il n'a pas pu voir ça. Victoire 4-0 du Bayern, but de Lewandowski, Gnabry, à nouveau Lewandowski, et c'est le Mats Hummels, forme de symbole, même si je ne sais pas symbole de quoi, mais le côté à la fois Lewandowski, ancien du Borussia, même si ça fait un moment qui met deux buts et qui est totalement intenable, et à l'inverse, Hummels qui est passé dans le camp en face, qui termine par un CSC 4-0. Et là, pour le coup, Florent, je ne sais pas ce que tu en penses, mais je trouve que le score reflète globalement le rapport de force entre les deux équipes, parce que le Bayern était quand même largement au-dessus.
Ah oui, absolument. Là, j'ai les stats sous les yeux. 4-0, 18 tirs à 2, 5 tirs cadrés à 0, 7 grosses occasions à 1. Je m'arrête là ou je continue?
Oui, je pense que là, on a globalement l'idée générale.
Là, on a vraiment l'idée. Et c'est vrai que, alors, dans les premières minutes, il y a un petit doute quand même, parce que Dortmund rentre pas trop mal dans le match, c'est assez équilibré. Mais en fait, très rapidement, tu te rends compte que le Bayern va s'extirper de la tentative de Dortmund de les coincer sur demi-terrain pour presser avec leur 4-4-2 parce que ils ont David Alaba en défense centrale pour relancer. On en a fait une petite vidéo bonus que vous pourrez retrouver, en tout cas qui est pour nos abonnés sur Patreon, donc rendez-vous sur patreon.com/jusdubansaga pour pouvoir la voir. Mais à partir du moment où tu vois ce joueur-là qui s'avance balle au pied et qui en une passe peut soit trouver Coman et lui offrir un contre un le long de la ligne, soit renverser totalement le jeu et du coup prendre à revers tout le bloc de Dortmund qui est en train de coulisser vers lui pour trouver soit Lewandowski de la tête, soit Gnabry. Tu te dis que forcément le pressing de Dortmund ça va être très compliqué. Et en effet, c'est ce qui s'est révélé vrai par la suite. C'est que Dortmund a eu énormément de mal, ne serait-ce que pour récupérer le ballon dans les pieds du Bayern. Et du coup, à partir du moment où ils ne récupéraient pas le ballon dans les pieds, il n'y avait pas de transition pour eux. Et sachant que les transitions, ça reste quand même un de leurs points forts. Et ensuite, bah, de toute façon, on l'avait vu déjà face à l'Inter Milan, où Dortmund, à partir du moment où l'adversaire commence à sortir du pressing, à lancer un mouvement offensif, il n'y a pas vraiment de joueurs qui vont être capables de mettre le coup de rein, de faire l'effort et de couper l'action adverse. Et en fait, le Bayern, quand ils ont commencé à développer leurs attaques, tu sentais qu'en face, ça filmait plus qu'autre chose et qu'ils étaient assez spectateurs. Et du coup, le Bayern a commencé à marquer très vite et ensuite a eu quand même eu pas mal d'occasions avant de réussir à mettre le 2-0. Mais c'était vraiment un match à sens unique.
C'est vrai que déjà la première chose que tu évoquais, qui est alors peut-être pas l'histoire du match, mais qui est quand même un point très important, c'est à la base. Donc, comme tu le disais sur Patreon, on a fait toute une vidéo de ces relances qu'on a mis à dispo, et vidéo qui est assez longue parce qu'il y a énormément de très belles relances qui cassent le bloc adverse. Et c'est vrai qu'en plus, alors à la base centrale, ça peut paraître risqué, mais face à un Götze, donc qui est un faux numéro 9 en face, d'avoir une espèce de faux défenseur central, finalement, c'est pas trop gênant parce que t'avais pas un grand gabarit, t'avais pas un Dembélé, par exemple, qui viendrait te faire chier dans les airs. Et là-dessus, bon, Javi Martinez, même si c'est pas un pur défenseur, est un peu plus capable d'aller sur les duels. Mais du coup, Alaba n'avait pas forcément les actions type du défenseur central à jouer. Et clairement, il pouvait exploiter toutes ses qualités de relance. Et c'est là qu'on a vu quand même que, bah, il y a certains joueurs qui sont pas forcément amenés à le faire, parce que Alaba, dans sa position de latéral, généralement, il est plus amené, alors il fait quelques renversements, mais il est plus amené à déborder, à percuter, à centrer. Et là, on a vu que central, il avait des qualités, honnêtement, c'est digne des meilleurs matchs de Bonucci, et qu'il y avait très peu de centraux qui étaient capables de faire ça. Donc c'est là où tu dis, tiens, si tu mettais, pourquoi pas, alors je ne sais pas si ça serait viable et si ça serait pertinent, mais si tu mettais Alexandre Arnold central sur un match, on se rendrait compte qu'il serait plus technique sur les relances, des relances qu'il n'a pas forcément à faire depuis l'axe, plus technique que 99% des centraux habituels. Donc là-dessus, à la base, tu avais un peu le meilleur des deux mondes, à savoir sa qualité qualité avec le ballon, mais tu voyais pas ses éventuels défauts sans ballon, même s'il a déjà joué dans l'axe avec succès avec Guardiola. Et l'autre truc, et j'en avais déjà parlé un petit peu sur le match du Bayern que j'avais vu face à l'Olympiakos en Ligue des Champions en milieu de semaine, c'est avec le changement d'entraîneur, enfin, en tout cas le départ de Kovac qui était licencié, l'arrivée de Flick, son adjoint, comme propulsé numéro 1. Ça, c'est, alors je ne sais pas s'il y a véritablement des grands changements tactiques généraux dans les principes, mais on a vu une agressivité sans ballon, un pressing à la perte qui a tué quasiment toutes les transitions du Borussia, même s'il aurait pu en avoir, et qui fait écho à ce qui était le match contre l'Olympiakos, où pareil, l'Olympiakos n'avait pas tiré du match quasiment parce que le Bayern était très agressif pour récupérer le ballon quand il était perdu. Ça, pour le coup, sur des joueurs de ce niveau-là, ce n'est pas des principes à acquérir, c'est vraiment une mentalité à avoir. Et là, tu vois qu'ils avaient tous envie de faire ces efforts-là pour que le Borussia ne puisse pas exister sur ce secteur-là. Alors, on peut parler de tout le monde. Moi, j'ai presque plus envie de parler de Thomas Müller parce que c'est un joueur qui peut sembler un peu nonchalant et un peu en dehors du projet de jeu et qui finalement commence à faire un peu son âge, qui n'est même plus en sélection. Et là, sur ce match-là, il fait vraiment partie de ceux qui étaient décidés à courir partout pour empêcher le Borussia de jouer. Et c'est quand même l'une des histoires de ce match-là, que le fait que le Borussia, alors, aurait pu jouer plus de transition avec Reus, qui aurait été apte. Il est rentré en jeu, mais je crois qu'il s'est répété puisqu'il n'est pas en sélection, il a fait forfait, et avec Sancho qui n'était pas apte à jouer, enfin qui était à 50% et qui a très peu couru. Mais même avec eux au top, ça aurait été quand même compliqué parce que le Bayern avait vraiment décidé d'être très agressif dès que le ballon était perdu, et sachant qu'avec Alaba et Kimmich, le ballon allait très vite en zone de terrain adverse, bah finalement quasiment tout s'est joué dans la moitié de terrain du Borussia.
Ouais, ben, en termes de stats, pour compléter ce que je disais tout à l'heure, le Bayern a fait deux fois plus de passes dans le dernier tiers que Dortmund, a tenté, ils en ont même réussi plus de deux fois plus, et en termes de passes à l'intérieur de la surface adverse, Dortmund termine à 1 sur 6, quand même, sur 90 minutes, donc une seule passe réussie quand le Bayern termine à 16 sur 28, et c'est vrai que globalement, t'as assez résumé l'histoire du match. Après, il y a aussi eu quand même un certain déchet technique côté Dortmund, parce qu'ils ont eu des situations dans la moitié de terrain adverse, notamment en première mi-temps, notamment en début de match, qui ont été gâchées par des mauvais contrôles, par des passes un petit peu longues, pas mal d'approximations. Face à l'Inter, quand on a débriefé le match lors du dernier épisode, j'avais surtout mis en avant la perf d'Hakimi, et Hakimi, pour le coup, a été un des joueurs les plus en difficulté, je trouve, sur le plan technique, sur ce match face au Bayern, d'autant plus que défensivement, il n'était pas aidé, puisque devant lui, t'en parlais, il y avait Sancho, et puis surtout, il y avait Alaba qui lui envoyait Coman à un contre un quasiment constamment, en tout cas en première mi-temps.
Et Coman toujours aussi chiant à défendre en un contre un, ouais, clairement, ouais. Ça change pas. Le système de Bayern peut être un peu caricatural avec on lance les ailiers, mais quand t'as des ailiers aussi difficiles à arrêter, c'est compliqué.
Ouais, et du coup, Hakimi, ouais, ça aurait été très difficile, alors que ça avait été le héros mercredi dernier. C'était mercredi, Dortmund ? Je ne sais
plus.
Oui,
je crois, ouais.
C'est pas bien grave, la semaine dernière en tout cas. Et c'est vrai que là, il a un peu vécu l'opposé d'un match à l'autre.
Et alors, ça sera peut-être juste une anecdote à l'échelle de sa carrière, mais il y a quand même Davis qui était au duel. Alors, comme tu le disais, Sancho, faut mettre une astérisque sur son match parce qu'il n'a pas vraiment pu porter ce qu'il peut faire habituellement. Mais Davis, qui est habituellement un ailier, qui là est replacé depuis quelques matchs latéral gauche, qui est né en 2000, donc extrêmement jeune, qui vient de MLS, qui jouait aux Whitecaps il y a quelques saisons à Vancouver, s'est retrouvé être un défenseur latéral qui, dans ce type de match, alors je ne sais plus combien il fait de récupération, mais il a des stats assez énormes pour quelqu'un dont c'est pas le poste, qui est très jeune, qui découvre un petit peu tout ça. Alors je ne sais pas si le Bayern a trouvé son futur grand latéral gauche, puisque au final Alaba est quand même destiné à retrouver le poste, mais par rapport à ce que j'avais vu de Davis ailier, et en plus vu la concurrence qu'il y a sur l'aile, c'est peut-être une belle idée de reconversion. En tout cas, c'est mieux de faire de montrer ça à 19 ans qu'à 28, parce que ça te permet d'envisager un avenir avec des réflexes défensifs que tu as déjà dès le plus jeune âge. Qu'est-ce que tu as pensé de Weigl au milieu de terrain, qui était titularisé? Alors, je ne sais pas dans quel état physique est Delaney, qui joue beaucoup moins cette saison, mais par rapport à la saison dernière, où vraiment son binôme avec Witzel était quasiment indéboulonnable. Mais moi, je n'avais pas trop compris le choix de l'aligner au départ, parce que Weigl est quand même beaucoup plus adepte pour montrer des choses balle au pied pour construire dans la moitié de terrain adverse. Mais face au Bayern, tu te doutais qu'il y avait quand même plus besoin de mettre le pied. Et là-dessus, ça fait partie pour moi des joueurs qui, niveau de l'intensité, sont un peu défaillants. Et quand tu passes plus de temps à subir, alors ok, il peut t'apporter des choses sur les sorties de balles, mais c'est peut-être un petit peu léger.
Bah, c'est un petit peu léger, même, tu vois, tu parlais des sorties de balles, c'est un des joueurs de Dortmund qui a touché le moins de ballons parmi les titulaires. Tu vois, là j'ai les chiffres sous les yeux, t'as Hummels qui fait 45 passes, Witzel 40, Hakimi 35-34. Normalement, Weigl, tu devrais l'attendre au niveau de Witzel, au niveau de Hummels, est très disponible et il termine le match en fait avec seulement 25 passes tentées, ce qui est très faible, même si l'équipe a subi. Et du coup, en fait, à partir du moment de toute façon où ce joueur-là ne touche pas le ballon, ou très peu, tu perds énormément de son utilité. C'est dans un son Pour résumer un petit peu ses qualités, il faut que son impact sur ta phase de possession, ça soit 70% quasiment de son apport sur le terrain, quoi.
Oui, c'est quand même l'école Busquets.
C'est ça. Sinon, tout à l'heure, je parlais de cette équipe de Dortmund qui a du mal à défendre dans sa moitié de terrain et qui filme un peu, peut-être un peu comme Manchester City a pu filmer face à Liverpool. C'était un petit peu ça, et Weigl, tu sens que c'est cette école-là, c'est-à-dire c'est pas le joueur, si tu as un décalage à combler, c'est pas forcément sur lui qu'il faut compter pour venir couper la situation et mettre fin au danger.
Dernier truc à évoquer avant de conclure, Flo, c'est Lewandowski, malgré tout, qui a 31 ans, a peut-être jamais été aussi fort. Alors on attendra de voir en Ligue des Champions, parce que même si cette année la Bundesliga est plus serrée et le Bayern n'a pas championnat à gagner, il y a beaucoup de ses stats qui étaient entre guillemets dans le vide, parce que même avec 10 buts de moins, le Bayern aurait été champion sur pas mal de saisons. Donc c'est en Ligue des Champions que tu vas vraiment l'attendre. Mais là, il a 16 buts en 11 matchs de championnat, il a 6 buts en 4 matchs de Ligue des Champions. Il a marqué sur tous les matchs de championnat qu'il a disputés cette saison.
Et tous les matchs
Et
Ligue
on
des
voit,
Champions aussi,
ouais, et
je crois.
on voit qu'il n'y a pas. Enfin, il y a les buts, mais il n'y a pas que les buts. Enfin, vraiment, il est au-dessus du lot sur pas mal de domaines.
Ouais, sur beaucoup de domaines. Mais la saison dernière, je crois que Lewandowski, c'était un des joueurs qui avait le plus sous-performé selon certains modèles Expected Goals,
Selon
notamment.
Understat, c'est le joueur qui a le plus sous-performé de l'histoire des XG.
Ah, d'accord.
Depuis 4-5 ans
Mais je.
que Understat fait ça. Et je crois qu'il était à moins 11 ou quelque chose comme ça. En tout
C'est
cas, j'avais
ça,
checké et c'était le plus gros, la sous grosse sous-perf de l'histoire. Et le deuxième, alors je sais plus qui c'était, mais était à moins 6 ou moins 7. Donc c'était vraiment historique
ouais.
sur ce point-là.
Il était à 33,1 XG pour 22 buts marqués la saison dernière. Cette saison, il est à 11,4 XG pour 16 buts marqués. Alors qu'en termes de tir, il tire un peu plus cette année, mais c'est à peu près similaire. Donc en fait, il est parti sur une saison totalement à l'opposé aussi, mais en bien cette fois. Et c'est vrai que sur ce match-là, au-delà de sa finition, parce que même il lui arrive quand même de rater des occasions, il rate un face-à-face offert par Coman, je crois, en début de deuxième mi-temps. Il termine à 4 frappes d'ailleurs, 4 tirs, 2 buts et 2 tirs non cadrés. Mais globalement, c'est aussi son apport sur le jeu. À partir du moment où le Bayern a. Alors forcément, tu peux t'appuyer sur sa tête, sur les longs ballons, etc. Mais à partir du moment aussi où le Bayern a. Ou à là-bas, où le circuit extérieur vers Coman est un petit peu refermé suite à la sortie de Sancho et le remplacement de Hazard de ce côté-là, le Bayern a commencé à chercher des solutions à l'intérieur. Et là encore, tu l'as revu aussi, Lewandowski, servi dans ces situations-là où, dos au jeu, bah, il faisait. Le point d'appui remisé pour Müller ou pour Goretzka ou je ne sais qui, et ça se transformait aussi en situation. Donc au-delà en plus de son efficacité assez impressionnante à la finition, puisque là je crois qu'il a marqué sur tous les buts, enfin sur tous les matchs depuis le début de la saison, je pense qu'il a marqué un but, il me semble, c'est à vérifier. Mais t'as aussi son apport dans le jeu, quoi, qui est complet et qui peut rappeler ce qu'il pouvait faire lorsqu'il était dans son prime, justement à Dortmund. Mais la question reste en effet celle que tu posais, dans quel état est-ce qu'il va arriver au printemps? Est-ce qu'il part pas trop fort peut-être par rapport à cette échéance-là? Ça c'est une question qui peut se poser. Après on verra d'ici là, mais c'est vrai que ce qu'il fait aujourd'hui le place peut-être numéro un des avant-centres depuis le début de la saison dans les grands championnats et même au niveau mondial peut-être.
J'ai vérifié, je crois que c'est simplement en coupe et en super coupe qu'il n'a pas marqué. En super coupe, parce que le Borussia a gagné 2-0. Donc ça règle la question. Et puis face à Bochum, il est rentré en jeu, il n'a pas marqué. Mais sinon, je pense que sur tous les autres matchs de Ligue des Champions et de championnat, je crois qu'il a marqué. Dans tous les cas, ça reste des stats assez, assez énormes. Et entre lui et Immobile, qui marque aussi, il y a deux attaquants qui claquent. Alors, Immobile à un niveau moindre, mais qui sont sur des bases assez affolantes, qui seront bientôt rattrapées par Messi, évidemment.
Et Denis Bouanga.
et Denis Bouanga. Raphaël, puisque tu viens faire le fanfaron, on te relance dans le game, dans le
Ah,
jeu, pour les
relance-moi.
vracs, nos vracs habituels. Et toi, ton vrac concerne, c'est l'écho finalement à un tweet que tu as fait sur le milieu des espoirs par rapport au milieu des grands chez les Bleus.
Oui, en milieu des espoirs. Alors malheureusement, là, Aouar s'est blessé contre l'OM. Il a été remplacé par Louza, le joueur de Nantes, qui d'ailleurs a joué un peu plus bas sur le terrain en cours de match là, avec Nantes, donc qui peut aussi jouer dans un double pivot. Non, mais je vais lire le milieu du coup. Ce sera Louza, Bellegarde de Strasbourg, Guendouzi, René Delaïde, Soumaré et Youssouf, qui à chaque fois du coup fait un petit pincement au cœur à Flo, mais qui réalise un très bon début de saison avec Saint-Etienne. Je crois que les supporters des Verts sont très contents. Et le milieu des A, Kanté, Matuidi, Ndombele, Sissoko, Tolisso. Donc ça me donne envie d'être un peu dans le futur pour voir les profils qui sortent désormais des centres de formation et des clubs français ou même étrangers, mais français en tout cas, pour voir justement plus de variété et plus comment dire, de qualités diverses à l'intérieur d'un seul et même joueur. C'est-à-dire qu'en équipe de France, il y a quand même des spécialistes, c'est-à-dire que Sissoko, c'est de l'impact. Et beaucoup d'impact et pas vraiment d'autre chose. Alors Kanté s'est un peu plus développé ces derniers temps, et on avait vu lors de la Super Coupe contre Liverpool qu'il était capable d'apporter de la technicité et même du jeu vers l'avant. Ça reste quand même au départ quelqu'un qui va gratter des ballons, défendre en avançant et ensuite se contenter de passes assez simples. Matuidi, on connaît le profil par cœur, très bon centreur, il y a des gestes techniques qu'il maîtrise, mais c'est quand même un joueur qui a l'énergie et au volume de jeu plus qu'à la créativité. Alors Tolisso, c'est un profil un peu particulier, qui n'est pas forcément très créatif, mais qui est un joueur ordonné, organisateur, qui peut faire du bien au milieu de terrain. Et le vrai, pour moi, seul créatif et inventeur de ce milieu des A, c'est Ndombele, qui a toujours la volonté de jouer vers l'avant, qui sur une prise de balle peut feinter deux ou trois joueurs. Voilà, donc il y a un créatif pour moi dans les cinq milieux de terrain de l'équipe A. Alors que si on partait sur l'équipe des espoirs avec ceux qui devaient être là, dont Aouar, t'as du Aouar qui peut créer du jeu, t'as du René Dalid qui peut créer du jeu, t'as du Youssouf qui peut inventer des choses intéressantes balle au pied. Je pense que Soumaré aussi est capable d'être créatif et en tout cas de casser des lignes balle au pied. Alors Guendouzi, c'est un profil aussi un peu plus organisateur, mais qui dans le sens de la passe est très bon et il est capable aussi de trouver des intervalles très, très réduits. Et Bellegarde, qui a un profil qu'on connaît un peu moins, mais qui me semble aussi assez vertical. Donc j'ai hâte de voir ces joueurs-là. Ces profils-là, que ce soit eux ou les joueurs, hein, des joueurs similaires, mais en équipe A, et qu'on joue avec des mecs dans l'axe qui sont plus complets, plus inventifs, parce que l'équipe A, du coup, on les connaît un peu par cœur. La seule hâte que j'ai, c'est de voir Ndombele jouer, et j'espère qu'il jouera, mais sinon, les autres ne nous surprennent pas, et on a écrit un bouquin plus sur les 10 et la créativité, et le foot, quand même, on le regarde en bonne partie pour être surpris par des gestes et des idées chez les joueurs. Et là, si je dois chercher les idées de la créativité, je vais plutôt aller regarder les espoirs que les A. Donc c'est un peu dommage, mais j'imagine que ça va évoluer quand cette génération prendra la relève.
Et notre que Bellegarde, qui est le moins connu, se prénomme Jean Rickner et que tout le monde appelle Jean-Jean. Voilà,
Qui me fait penser du coup au sketch de Dieudonné, c'est un peu perturbant.
c'est ça. C'était la première fois, c'est très perturbant, parce que la première fois, je l'avais vu sur un match de la réserve de Lens, j'étais à côté du banc, coaché à l'époque par Eric Sikora, qui avait hurlé Jean-Jean pendant tout le match. Donc c'était, tu te demandais à qui il s'adressait. Et donc c'était Bellegarde qui déjà montrait des vraies qualités avec le ballon.
Tiens, breaking news, Matuidi est blessé, donc c'est Guendouzi qui le remplace. Donc bon, je suis dans le thème.
En tout cas, c'est pas mal les breaking news sur les podcasts que les gens écouteront hein. Plus
C'est pour toi,
dans
c'est pour
12 ou
toi.
14 heures, puisque voilà, ils pourront situer le moment de l'enregistrement. Moi, mon vrac, avant de conclure par celui de Florent, c'est un peu ma spécialité, c'est de prendre des articles du Guardian et d'en discuter. Celui-là s'appelle, en plus, ça me permet d'exposer mon magnifique accent anglais, Springboks and the latest science. Non, pardon, je vais pas y arriver. Je recommence. Springboks and latest science against show momentum in sport is overrated. Donc c'est sur le momentum qui serait surcoté, surévalué. Donc le momentum, bon, il n'y a pas vraiment de traduction française, mais c'est la dynamique en gros. Le fait que, bah, typiquement, là, ce qu'ils disent, plutôt que d'expliquer ce que c'est vraiment de dévoiler le contenu du papier, c'était qu'il y a des nouvelles études qui sont sorties, notamment là sur 80 000 matchs de foot, et se sont rendu compte que les séries victorieuses, les séries de victoires ou les séries de défaites, n'avaient pas de sens, dans le sens où si tu faisais 4 victoires de suite, ça ne donnait pas plus de chances, ça donnait même moins de chances de gagner le cinquième, et que finalement les équipes qui étaient sur les séries sous-performaient face à des équipes. Enfin, finalement, les séries avaient tendance à s'arrêter face à des équipes qui auraient dû être abordables et que le côté dynamique n'avait pas vraiment de sens, peu importe le sport. À part en tennis, où ils ont trouvé que face à un adversaire qui est en train de monter au classement, il pouvait y avoir des résultats plus négatifs qu'à l'habitude, peut-être parce que les joueurs se mettaient une pression supplémentaire en se disant, ah tiens, ce joueur-là est en forme, ça va être plus compliqué, et que du coup, les joueurs mieux classés avaient tendance à sous-performer. Mais sinon, cette étude dit notamment que les équipes qui marquent avant la mi-temps n'ont absolument pas plus de chances de gagner le match, et que c'est pas du tout un bon moment particulier de marquer avant la mi-temps. Alors ça s'adapte à plusieurs sports. En basket, ils se sont rendus compte que les joueurs qui mettaient le tir qui permettait d'aller en prolongation avaient des moins bons pourcentages en prolongation que ceux qui rataient le tir de la victoire. C'est-à-dire quand deux équipes se retrouvent en prolongation, si tu avais raté le tir qui t'aurait permis de gagner, bah tu performais mieux en prolongation que celui qui avait permis à son équipe de l'obtenir. Donc du coup, vraiment que tout ce qui est momentum, dynamique, etc., c'était presque plus un concept abstrait, un truc journalistique, ou encore plus que journalistique, quelque chose qui sert de motivation interne pour les entraîneurs, mais que finalement, on s'en sert notamment pour nos paris, une équipe qui est sur 4 victoires de suite aura presque plus de chances de perdre son cinquième match qu'une équipe qui était sur une série moyenne ou négative. Donc c'est assez intéressant, et ça remet en question pas mal de choses et de présupposés qu'on a, notamment, je le disais, sur le fait de marquer au meilleur moment, genre juste avant la mi-temps, pour retourner sur une bonne dynamique en seconde période. Finalement, tout ça serait un peu du vent, comme c'est du vent le fait que les joueurs qui subissent la faute ne doivent pas tirer les pénaltys. On se rend compte que finalement les taux de réussite sont à peu près les mêmes, peu importe le tireur. Donc voilà, ça fait partie un peu des mythes à enlever. C'est un article assez intéressant, même si j'ai très mal prononcé le titre. Florent, toi, ton vrac, c'est un quiz.
Oui, bah un petit peu comme la dernière fois, on va faire plus court, puisqu'on nous avait demandé de faire plus court la dernière fois. Puisque c'est la trêve, là on arrive au tiers du championnat. La dernière fois c'était un quiz expected goal sur les tirs, là on va se pencher sur les joueurs. On connaît le top 5 des meilleurs buteurs. Ben Yedder, Dembélé, 9 buts. Habib Diallo de Metz, 8 buts. Osimhen et Depay à 7 buts. Mais quel est le top 5 en expected goals?
Osimhen.
Osimhen est premier à 7,68, oui. Raphaël.
Mbappé.
Mbappé n'y est pas, mais Mbappé est sixième avec deux fois moins de temps de jeu que les autres. Donc
Ah
c'est pas mal quand même. Il est à 5,72. Christophe, t'en as un ou pas?
oui. Icardi.
Icardi est à 6,36 avec encore moins de temps de jeu que Mbappé. Donc c'est assez monstrueux en termes d'occasion. Il est à 1,52 expected goals par 90 minutes. Et du coup, il vous en reste trois à trouver. Il y en a deux faciles. Et le
Ben
troisième,
Yedder.
Raphaël en avait déjà parlé. Ouais, Ben Yedder, oui. Troisième, 6,64. En avance sur ses expected goals d'ailleurs, puisqu'il a mis 9 buts. Et les deux derniers,
Slimani.
Slimani est à 7,05.
Oh,
Il est
il est énorme,
deuxième.
ouais.
Il est deuxième. Par contre, il est en retard assez largement, puisqu'il n'a mis que 5 buts par rapport à ses
Après, il fait
adversaires.
tellement de passes décisives que ça compense un petit
Et
peu sa
justement,
relative maladresse.
on va en parler après. Et le dernier que vous n'avez pas pour l'instant, c'était Andy Delors. Raphaël, tu
Ah
t'étais appuyé sur lui, sur
oui.
ses
En début de
expected
saison,
goals
ouais.
en début de saison. Il est à 6-18, donc voilà, pour 4 buts marqués, donc lui aussi est un peu en retard, mais il a raté des pénaltys aussi, je crois, il me semble, depuis le début de la saison. Et du coup, au niveau des passes décisives, on a deux meilleurs passeurs qui sont en tête, c'est Slimani du coup, et Johan Kuro de Brest, avec 7 passes D, puis Di Maria avec 5, Yazici et Thiago Mendes à 4 passes décisives, mais alors en expected assist, qui est devant?
Slimani.
Slimani est troisième. 3,78 pour 7 passes D, donc merci les buteurs, notamment pour lui.
Je le pensais et plus enfin je le pensais plus haut que ça en espèce
Il y
d'assist.
a un autre monégasque dans le top 5.
Golovin.
Golovin est sixième, décidément, t'as pas de
Ah.
bol. Il est à 3,07, mais l'autre monégasque, c'est Christophe qui l'aime bien. Qui le met bien quand il est arrivé, en tout cas.
Parce que sinon j'allais te répondre Jamerson et je me suis dit non, c'est pas cohérent.
Non, non, non.
Je l'aimais bien
Jackson.
quand il est arrivé.
Ouais, t'en avais pas mal parlé, ouais, quand il est arrivé l'hiver dernier.
C'est Gelson, non?
Ouais, c'est Gelson, ouais.
Ah oui, ok.
3,26. Par contre, lui,
J'avais totalement oublié son existence.
les buteurs ne sont pas très sympas puisqu'il n'a mis qu'une passe D alors qu'il est à 3,26. Et du coup, il vous manque les deux premiers qui sont pas très compliqués pour le coup.
Di Maria.
Di Maria qui est à 5,30 en passe décisive, en effet.
Ouf.
Et le
Bah
dernier,
court, du coup, ou pas du tout?
Johan Cour est quatrième. Oui, c'est vrai que je l'ai oublié, lui. 3,37 pour 7 passes D, donc un petit peu comme Slimani. Merci les buteurs. Et celui qui vous manque, qui a deux fois moins de
Mbappé.
temps de jeu que les autres, c'est Mbappé, ouais, qui a
Ouais.
4,29 en passe D, en expected assist. Mbappé qui, quand on combine les deux et qu'on ramène les chiffres par 90 minutes, est quand même à 1,16 expected goals par 90 et 0,87 expected assists par 90.
C'est
Donc, faites
n'importe quoi.
l'addition des deux, c'est absolument n'importe quoi. Je crois que Messi, sur sa reprise, est un petit peu en dessous, il me semble. Mais ouais, on est sur des stats. S'il avait le même temps de jeu que les autres, je crois qu'on serait déjà sur. On aurait déjà peut-être le meilleur buteur et le meilleur passeur sur le premier tiers du championnat, quoi.
Oui, je pense qu'il aura fait le tour de la Ligue 1 à la fin de la saison.
C'est très possible. C'est très très possible.
Sachant que le seul astérisque que tu peux mettre, c'est le côté, bon, quand il rentre en cours de jeu, les défenses sont fatiguées et ça augmente un petit peu l'écart déjà énorme entre ses qualités physiques et d'intelligence de jeu, etc., par rapport au défenseur. Mais malgré tout, même quand il débute, on voit qu'il est un petit peu trop fort pour ce championnat, malheureusement.
Et si,
Merci.
juste pour finir, si
Vas-y.
on combine les deux, goal et assist, au total, on est sur du top 5. Il y a du Mbappé, il y a du Di Maria, il y a du, non, pas du Icardi, mais il y a du Slimani, il y a du Delors aussi, qui doit être quatrième ou cinquième, et Osimhen aussi, avec les quelques expected assists qu'il a faites, ressortirait dans les 5-6 premiers du championnat en cumulant les deux.
Merci Florent, et c'est l'heure de passer au pari avec notre partenaire PMU.fr.
PMU vous présente la séquence prono.
Les paris qui vont concerner les matchs internationaux, puisque c'est à nouveau la trêve, j'ai l'impression qu'il y a plus de trêve que de matchs de championnat. Là, on a des pauses tous les mois. On va commencer par Raphaël, qui part sur deux matchs un petit peu exotiques. Le premier, c'est Turquie-Islande.
Oui, exotique, mais pas tant que ça, puisque c'est le groupe quand même de l'équipe de France. Turquie-Islande, deux équipes qui du coup vont se jouer l'autre passe de qualification. Si on imagine que la France finit première ou deuxième du groupe vu son calendrier, je pense qu'il ne devrait pas y avoir d'immenses problèmes. Et donc je pars sur une victoire de la Turquie à domicile contre l'Islande sans encaisser de but. Pourquoi? Parce que la Turquie est tout simplement une des meilleures défenses d'Europe, avec 3 buts encaissés seulement en 8 matchs, si je ne m'abuse. Il en reste deux à chaque équipe. Ils ont marqué 16 buts, donc c'est plutôt correct. Et à domicile, avec cette volonté turque en ce moment de faire briller la patrie, la nation, je vois bien un match assez solide de la part des Turcs contre une Islande. Il n'y a quand même pas l'Islande de 2016. Alors ça embête toujours les adversaires, mais il y a quand même moins de, je trouve. Il n'y a plus l'effet de surprise déjà. Et puis il y a des joueurs plus talentueux ne sont pas venus renforcer cette équipe qui du coup vieillit un petit peu. Donc je pars sur une qui, je crois, est toujours avec Victorsson à l'avant-centre. Je pense que c'est un bon résumé de la situation islandaise. Voilà, donc je pars sur une victoire de la Turquie à domicile contre l'Islande sans encaisser de but. Et c'est à 2,50.
Ton deuxième match, c'est Russie-Belgique.
Ouais, Russie-Belgique, un groupe où là par contre, il me semble que tout est décidé à peu près, puisque la Belgique est à 27 points ou 24, non 24 en 8 matchs. Moi je sais plus, ils ont gagné tous leurs matchs en tout cas. 30 points peut-être, je sais plus. Bref, ils ont gagné tous leurs matchs, ils sont très très forts les Belges. Ils ont encaissé très peu de buts et en ont marqué énormément. Et là ils se déplacent en Russie, la Russie qui est deuxième, qui est pas très loin de la Belgique. Et du coup, je vois bien les Belges aller là-bas et gagner. Alors je ne mise pas sur un score en particulier parce que je me dis que. Vu la qualité des Russes sur cette phase de qualification et le fait de pouvoir passer premier du groupe, qui premier ou deuxième, maintenant on s'en fiche vu que l'Euro est à 24, mais en termes de fierté, c'est intéressant. Et là, je parie sur quand même une victoire belge en Russie, puisque les Belges sont en forme et ont une génération toujours aussi scandaleuse. La cote est à 1,95 et ça, c'est un match de samedi, je crois, alors que Turquie-Islande, c'est jeudi.
Alors, donnons vite fait les chiffres avant de donner la parole à Florent. La Belgique a joué 8 matchs, gagné 8 matchs, a
Ah, voilà,
marqué
c'est ça.
30 buts et en a encaissé un.
Voilà. Voilà.
Donc,
Après,
face
ils
à
ont
la
un.
Russie, justement, au match aller, victoire 3-1. Sauf que la Russie a marqué 27 buts et a encaissé 4.
Mais c'est là qu'il faut donner le groupe pour expliquer un peu les stats. Christophe, si tu l'as devant les yeux.
Oui, donc Belgique-Russie. Ensuite, c'est Chypre, Écosse, Kazakhstan, Saint-Marin.
Oui, voilà. Donc, sachant que l'Écosse fait pas une phase très intéressante, je crois qu'ils sont même derrière Chypre dans le groupe.
Absolument. Ils ont
Voilà.
une différence de moins 6,
Les
alors
deux
que
équipes
Chypre
sont
est à
déjà
plus 1.
qualifiées, en fait, Russie et Belgique. Donc, bon, une victoire de la Belgique pour conclure tout ça. Pour finir, pourquoi pas, après la phase sur 100% de victoire. Ça peut être pas
À noter que Saint-Marin est à moins 43 de différence de but
mal.
et a pris 9-0 contre la Belgique ainsi que contre la Russie. Donc voilà, on salue Saint-Marin qui nous écoute. Ou pas. Florent, je me fais rire tout seul. Toi, ton premier pari, ça concerne l'équipe de France.
Oui, l'équipe de France qui affronte la Moldavie, qui, à mon avis, est la pire équipe du groupe, même derrière Andorre. D'ailleurs, ils ont perdu contre Andorre, il me semble, il y a lors du rassemblement précédent ou début septembre, je ne sais plus. Quand on regarde les chiffres de la Moldavie, ça a pris notamment des petites claques en Turquie et en Islande. Je crois qu'ils prennent 4-0 sur ces deux matchs-là. La Turquie leur a remis 4-0 à l'extérieur. Alors, la France avait gagné 4 buts à 1 à l'aller en mars dernier. Je pense qu'ils peuvent faire encore mieux sur ce match-là, même si bon, Deschamps va peut-être faire tourner un petit peu, etc. Même si au final, les deux matchs ne sont pas non plus des matchs face à des énormes équipes. Du coup, l'idée, c'est de partir vraiment sur un gros festival offensif des Bleus et une victoire par plus de 4 buts d'écart, puisque le pari, c'est France moins 4, donc victoire 5-0 ou plus. Je crois que ça ne leur est pas arrivé sur la compétition, mais je pense que la Moldavie, c'est l'adversaire idéal pour le faire. Ils en ont mis 4 face à Andorre, 4 face à l'Islande, ils en ont remis 3 face à Andorre, et je pense vraiment que face à la Moldavie, ils peuvent faire mieux. Donc voilà, victoire de la France par plus de 4 buts d'écart, donc France moins 4, et c'est coté à 2,45.
À noter que la Moldavie a mis 2 buts, un ouais. face à Andorre et un face à la France.
Ouais, au match aller. Mais du coup, les Français en mettront 6, quoi. Voilà, s'ils en reprennent. Hein. Voilà.
Ça marche. Ton deuxième match, c'est Israël-Pologne.
Ouais, Israël-Pologne. Alors, j'étais parti sur un pari assez ambitieux parce que, à la base, la Pologne reste quand même sur 7 clean sheets en 8 rencontres sur l'année 2019. Donc, ça, c'est plutôt solide déjà défensivement, même s'il y a Glick qui joue. Donc, comme quoi, c'est possible de bien défendre avec Glick. Et en face, Israël a marqué dans tous ses matchs, je crois, sur les éliminatoires, mis à part justement face à la Pologne, où ils avaient pris 4-0 au match aller. Du coup, j'étais parti sur un pari assez ambitieux où je me disais que la Pologne allait gagner 1-2 ou 3-0 en Israël. C'était à 3,90. Finalement, je vais me calmer un peu. Je vais réduire un petit peu la cote et je vais partir simplement sur une victoire de la Pologne à 2,30. On a parlé de Lewandowski tout à l'heure. Donc déjà, ça, c'est pour l'argument de réussir à marquer. Et voilà, je me calme un peu, je pars juste sur la victoire de la Pologne, alors peut-être 2 buts 1, mais peut-être 2-0 aussi. Mais une victoire des Polonais en Israël pour achever leur phase de groupe éliminatoire. Pardon. Je ne sais plus s'ils sont quasiment qualifiés, mais je pense qu'ils en sont plus très loin. Et ils devraient assurer ça en Israël. Voilà.
Ouais, je pense qu'ils sont qualifiés parce qu'ils ont 8 points sur la Macédoine, la Slovénie et Israël, alors qu'il reste 2 matchs.
Ah oui, donc c'est fait, ouais. Mais je pense quand même qu'ils vont rester sérieux, qu'ils vont aller prendre les points là-bas.
Sachant que Israël a quand même le meilleur buteur de ces éliminatoires, Eran Zavi, qui a marqué 11 fois. Et qui... Alors moi, ça fait partie des joueurs improbables que j'aimais bien. Et là, je regarde ses statistiques de buts sur les dernières saisons. Alors c'est absolument n'importe quoi. Puisque là, en Chine, il reste sur 29, 20, 27, 11 buts. Et en Israël, il était à 35, 28 et 29. Donc, mais sur une personne qui martyrise des championnats de niveau inférieur. Par rapport à ses qualités, façon Bounedjah qui continue à beaucoup marquer au Qatar.
Zahavi que j'avais découvert un triste soir de Ligue Europa à Bordeaux où il était venu avec le Maccabi Tel Aviv et entraîné par Paulo Souza à l'époque. Et il avait mis cher d'ailleurs à la défense bordelaise. Donc même en Ligue Europa, il avait réussi quand même à performer. Et c'est vrai que c'est. Tu parlais de Bounedjah, on pourrait comparer aussi à Soriano, par exemple, en termes
oui,
de carrière.
Oui, voilà. Est-ce que ça t'a fait plus mal que le but encaissé contre Osasuna, la tête de Nekunam?
Ah non, parce que là en plus le Maccabi jouait de manière très agréable, alors qu'Osasuna tu perds juste parce qu'il y a un coup de pied arrêté, une tête à la fin. Là il n'y avait rien à dire, hein. C'était une petite leçon tactique à l'époque qui m'avait fait justement découvrir aussi Paulo Souza. Donc j'étais sorti un peu déçu mais quand même satisfait parce qu'il y avait une équipe qui jouait bien sur le terrain, quoi. Voilà.
Merci Florent. Quel est le programme des prochains jours? Je crois que c'est assez chargé. C'est toi qui tiens un petit peu le calendrier.
Et c'est très chargé.
Qu'est-ce que tu peux nous dire?
On va revenir dès demain. On va enregistrer, nous, de notre côté, l'épisode 3 de la saga Euro 2004. Épisode qui sera entièrement consacré au premier tour de l'équipe de France, qui sera qui affronte l'Angleterre, la Croatie et la Suisse de tête. Donc voilà, on va analyser ce premier tour et ensuite on passera à l'épisode 4, ce sera le fameux France-Grèce que tout le monde attend. Il y aura aussi une nouvelle vidéo sur l'équipe de France Euro 2000, on va boucler ces vidéos d'ici peu. Il en reste deux à produire, là il y en a une qui arrive sur Thierry Henry. Et ensuite, en fin de semaine, selon les dispos de chacun, on fera peut-être enfin ce podcast état des lieux qui traîne depuis la fin octobre et qu'on n'a pas encore eu le temps de faire, sachant que les équipes ont peut-être bougé, mais on était parti sur un Monaco, Real Sociedad et peut-être Bayern. Là, vu que le Bayern va peut-être changer de coach, etc., ça va repousser. Mais dans ce cas, il faut qu'on trouve une nouvelle grosse équipe à suivre. Et on ne sait pas trop vers quoi s'orienter pour l'instant. Mais donc peut-être aussi un autre gratuit en fin de semaine. Et puis sinon, ça sera rendez-vous la semaine prochaine pour faire le débrief des performances de l'équipe de France face à la Moldavie et l'Albanie. Et peut-être
peut-être autre chose aussi.
Histoire de peut-être couvrir aussi les éliminatoires, puisque là, ce sont les deux dernières journées. Donc, on pourra peut-être faire un premier bilan des qualifiés pour l'Euro et essayer peut-être de se projeter vers cette compétition qui animera le mois de juin.
Merci, Florent. Raphaël, qu'est-ce que ça t'inspire, tout ça ?
Ça m'inspire beaucoup d'admiration pour toi, Christophe, même si tu n'aimes pas mes t-shirts.
Ah, si, il y a un point qu'on a oublié, enfin que j'ai oublié d'évoquer, et notamment dans la séquence Paris. C'est que à partir de cette semaine, on va vous faire gagner régulièrement des free bets sur à la fois sur Twitter et à la fois sur le Discord. Donc suivez-nous sur les deux si ce n'est pas déjà le cas, rejoignez-nous sur le Discord. Ça sera à base de score exact et de premier buteur, et sans doute le premier match sur lequel il y aura ce jeu, ce sera France-Moldavie. Donc voilà, on ne sait pas exactement si le score exact sera sur Twitter ou sur Discord et inversement. Mais soyez prêts, et voilà, il y aura des petits free bets à gagner à gauche à droite dans les prochaines semaines, et ça commence dès la semaine qui vient.
Écoute, c'est une précision importante et nécessaire, et je te remercie de l'avoir faite. Florent, Raphaël, c'est là-dessus, sur ces mots enthousiastes qu'on se quitte, et donc peut-être sur le gratuit en fin de semaine, sinon début de semaine prochaine. Et puis dans tous les cas, pour les gens qui nous suivent sur Patreon, il y aura un épisode saga qui arrive là demain ou après-demain selon la mise en ligne, en tout cas qui arrive très vite, le temps pour vous d'écouter celui-là. Il y aura un nouveau podcast qui enchaînera, donc voilà, beaucoup de vues du banc dans vos oreilles, beaucoup de choses, des vidéos, c'est la folie, on ne s'arrête plus. Merci messieurs, et puis rendez-vous très vite.
Salut.
Ciao.
Cordialement.
Vous avez tout compris grâce à ce podcast, c'est le moment de parier sur PMU.fr. PMU, que les meilleurs gagnent.